Le Salon Noir. Les ethnologues les ont collectés pendant des décennies. Les archéologues en exhument tant que réserves et musées en regorgent. Nous aussi, ils nous entourent et nous accompagnent parfois au-delà de la mort. Les objets, nous disons les choses, sont dénommés pompeusement artefacts chez les archéologues, tandis que, bien plus cultivés, les anthropologues utilisent une notion plus complexe, la culture matérielle, censée rassembler tous les biens matériels ou immatériels d'une société. Aujourd'hui, le Salon Noir aurait donc pu se dénommer « Montre-moi un objet, je te dirai qui tu es ». Nous lui avons préféré le grand retour de l'objet, tant ces petites choses semblent être actuellement au cœur des problématiques de ces deux sciences humaines. Pour en parler, deux anthropologues, les délocalisés non pas dans quelques forêts d'Afrique ou au cœur d'une jungle insulaire pacifique, mais dans le studio de Radio France d'Aix-en-Provence. Pierre Lemonnier et Frédéric Julien, bonjour.
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 Directeur de recherche au CNRS, Pierre Lemonnier, vous êtes avec Maurice Godelier, le spécialiste des Ankavés, Barouya et autres Angas de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous savez tout, bien sûr, sur les sociétés à grands hommes, celles à big men. J'ai aussi souvenir de votre livre avec Pascal Bonnemère, Les tambours de l'oubli, un objet dont nous pourrions reparler. Passé maître dans l'éthologie animale, maître de conférence à l'EHESS, Frédéric Julien, j'ai dans ma bibliothèque un de vos livres troublants, « La culture est-elle naturelle ?». Mais deux livres bien plus récents que vous avez édités seront aujourd'hui au cœur du Salon Noir. Deux livres d'une même revue, une grande revue classée sur la scène internationale, mais encore bien trop confidentielle, « Technique et culture », dont deux numéros portent indubitablement sur l'objet. Mais venons-en au fait, à notre objet. Frédéric Julien, l'objet est-il le propre de l'homme ?
Voilà, ma première réponse est non, bien entendu, je vais répondre. Bien entendu, ce propre de l'homme est aujourd'hui dépassé depuis qu'on a trouvé des outils chez des non-humains, chez des chimpanzés en particulier, et dans le monde animal. Donc, la question de l'objet, bien entendu, s'est déplacée et elle a quitté simplement la préhistoire et l'anthropologie pour aller vers l'éthologie également. On trouve, bien entendu, des outils utilisés et fabriqués en végétal ou en pierre chez des primates.
Et donc, c'est systématiquement lié aux primates. C'est systématiquement lié aux primates. À
non,
ces singes,
animaux,
casseurs de noix, par exemple.
Non, d'autres animaux, aussi bien des oiseaux que des cétacés, que d'autres carnivores peuvent utiliser, manipuler des artefacts, comme vous disiez tout à l'heure, et faire preuve de leur intelligence et surtout de leur socialité. Parce que la question qui se pose là, c'est celle de la représentation. Il existe dans ces sociétés de primates des objets dans le sens où il y a un système d'objets qui existe.
Alors peut-on
dans leur environnement.
Peut-on bien sûr parler de culture pour ces primates dans ces cas-là, puisque nous sommes sur le sujet ?
Oui, on peut parler de tradition, de culture dans le sens anglo-saxon du terme. Beaucoup d'éthologues parlent de culture. Moi, je parle plus volontiers de tradition ou de variantes techniques. Autrement dit, de comportements et de systèmes d'objets dans des communautés qui peuvent varier d'une communauté à une autre. Mais tous les traits qui définissent la culture, l'obsolescence, la transmission intentionnelle, etc., ne sont pas forcément présents dans le monde animal. Et donc, il faut penser à d'autres modalités culturelles, je dirais. Et dans ce sens-là, on peut s'interroger sur l'objet, sur la technique, mais pas dans une culture au sens fort du terme, comme on l'entend en anthropologie.
Quoi qu'il en soit, nos auditeurs de France Culture se doivent de redécouvrir les fables de Florian, dont La Guenon et les Noix, un des chefs-d'œuvre de la littérature française de la fin du XVIIIe siècle. Une fable qui raconte, bien sûr, une guenon tentant, liée à dans l'apprentissage du cassage d'une noix. C'est bien ça, Frédéric Julien ?
Oui, je me souviens de cet exemple et de cette fable, déjà évoquée il y a quelques années. Effectivement, elle donne à penser.
Pierre Lemeunier, des objets, vous en avez manipulé, étudié. Toutefois, comment votre livre sur la société Papou, Les tambours de l'oubli, fut-il perçu par cette société, j'imagine, comme une sorte d'étrange objet ?
Oui, étrange objet, alors même qu'on en avait parlé moult fois, mais quand vous dites aux gens, on va faire un livre de photographie qui sera un témoignage sur votre culture, quand on dit ça à des gens un peu perdus dans une forêt de Nouvelle-Guinée, qui ne vont pas à l'école, qui ne savent pas lire et écrire, et qui n'ont pas de boutique pour acheter des biens occidentaux, la notion de livre est assez mystérieuse. Donc quand on a rapporté le livre, la première chose qu'ils ont dit, c'est surtout « gardez-le pour vous, ne le donnez pas aux femmes ». Quand on a expliqué qu'il y avait un deuxième volume et que les femmes pouvaient le regarder, les gens qui pourtant m'avaient autorisé à reproduire toutes les photos possibles et imaginables, y compris les initiations masculines, m'ont dit « ces pages-là, tu les arraches ». Et alors leur expliquer qu'il en restait un bon millier ailleurs en Europe ou dans le monde, qu'on pouvait leur renvoyer, ça, c'était pas possible. Donc le livre est toujours là, ils sont contents, ils se reconnaissent, voilà. Les gens savent que leur culture est mise en texte et en légende, mais pour l'essentiel, c'est « t'as vu, j'étais sur la photo et machin est mort », ce qui est déjà pas mal.
C'était pour eux une sorte d'objet unique, une sorte d'objet rare ?
Ah, pour le coup, oui, parce que la notion de librairie ou de tirage à multiples exemplaires, alors, ne leur dis rien. En effet, c'est un objet unique et rare, qui, bien entendu, est resté dans les mains du maître des initiations.
Alors là, nous sommes sur un objet européen chez une société papou. Vous avez aussi étudié des objets papou, vous, Européens, anthropologues, notamment les barrières, c'est bien ça ?
Oui, alors les barrières de jardin. Alors, il faut imaginer des jardins, c'est pas avec des jolies fleurs et des arrosages automatiques, c'est avec des tubercules qui nourrissent les gens et avec lesquels on nourrit les cochons, des cannes à sucre, des légumes, des épinards sauvages, des fleurs, un tas de choses. Mais on appelle ça un jardin parce qu'il y a une multiplicité d'espèces à l'intérieur. Partout en Nouvelle-Guinée, les gens élèvent des cochons et protègent les jardins des divagations des cochons en construisant des barrières. Puis d'un seul coup, patatras, dans une société particulière, vous trouvez des barrières qui font 2,50 m et qui sont clairement trois fois plus solides qu'il ne serait nécessaire. Alors on y interprète un objet comme celui-là, qui est un objet parfaitement ordinaire, sur lequel il n'y a rien à lire, il n'y a rien à déchiffrer. Et ce dont on se rend compte, c'est quand on voit comment les gens le fabriquent, cet objet, et pas seulement comment ils l'utilisent, on se rend compte que les gens qui coopèrent sont des hommes, des co-initiés, des beaux-frères, qui crient très très fort devant les femmes. Autrement dit, cet objet, un bout de bois avec des liens surdimensionnés, pour résister aux attaques des cochons infiniment mieux qu'il ne serait nécessaire, cet objet en fait vous montre la domination masculine ou du moins les rapports asymétriques entre les hommes et les femmes. Il vous rappelle que les co-initiés doivent coopérer pour construire cette barrière comme ils coopéreraient dans la guerre. Il vous rappelle que des beaux-frères doivent impérativement coopérer. C'est une barrière de jardin standard, mais telle qu'on la regarde aujourd'hui après 40 ou 50 ans d'études de technologie culturelle et qu'on regarde enfin les objets ordinaires, la manière dont on les fabrique, dont on les utilise matériellement, on s'aperçoit que ce sont les piliers de la société en question. La symétrie homme-femme, la part des initiations masculines et la forme de mariage qui sont mises sans mots, qui communiquent un ordre social à travers un objet.
Alors là, bien sûr, vous, en tant qu'anthropologue masculin, vous travaillez avec les hommes, mais est-ce que l'on pourrait trouver l'équivalent de ces barrières du côté des femmes par, une anthropologue femme ?
Oui, en Nouvelle-Guinée, alors la question du genre supposé ou de l'association de certains objets avec les hommes ou les femmes vont d'abord varier d'une société à l'autre. Vous passez y compris dans les activités, vous passez dans la vallée d'à côté. Et d'un côté, ce sont les hommes qui préparent le sagou, par exemple, la fécule du palmier sagoutier. Et de l'autre côté, ça va être les femmes. Les filets de portage sont généralement considéré comme un outil féminin qui va bien au-delà d'un objet qui permet de transporter des denrées. On le pense et on le dit souvent dans la langue comme un utérus. Et lorsqu'on utilise un filet de portage de ce type dans les initiations masculines, c'est une façon de réintégrer le pouvoir des femmes et des choses qu'elles seules savent faire à l'intérieur d'un domaine où les hommes sont supposés agir seuls pour reproduire et fabriquer des garçons et des guerriers. Donc bien sûr, il y a des objets qui, sans mots, disent, nous les femmes, en l'occurrence, on a un pouvoir procréatif qu'on pourra utiliser dans cette activité strictement masculine que sont les initiations masculines.
Les objets sont-ils à la mode en anthropologie et en archéologie? Disons-le tout de suite, les archéologues ont surtout cela pour travailler, car ils n'ont bien sûr pas grand-chose. Toutefois, semble pointer dans les problématiques des chercheurs une sorte de grand retour de l'objet.
Oui, je crois qu'on peut, au vu des publications ces dernières années, et ces toutes dernières années, plusieurs ouvrages, objets et mémoires, le genre des objets, profil d'objets, et puis les numéros que nous avons coordonnés de la revue, celui par Pierre et Sandra Révolon, objets irremplaçables, et celui que j'ai pu coordonner sur le Japon, l'objet est central. Et je dirais, est à la mode pour des bonnes et des mauvaises raisons, on pourrait le dire. Alors, je dirais qu'on est du côté des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on interroge l'objet comme un vecteur de la société. Il est à la fois, je dirais, un fait social en lui-même et un objet qu'on peut externaliser, étudier, dessiner, comparer, analyser pour ses qualités et aussi dans le sens où il agit sur la société elle-même. Et c'est le pouvoir des objets en système qui fait sens pour nous à l'heure actuelle et qui est très important. Parce que, je dirais, nous avons intégré toute la filiation à la fois sémiologique de Barthes à Baudrillard et à bien d'autres ensuite qui ont travaillé sur les objets comme signes d'un côté et puis par ailleurs parce que nous avons intégré toute l'anthropologie, l'héritage de l'anthropologie des techniques de Laura Gourand, Robert Cresswell et bien d'autres. Autrement dit, on étudie les objets en production, leur mode de fabrication et leur mode d'utilisation et de consommation par ailleurs. Donc c'est parce que cette multidimensionnalité aujourd'hui est centrale qu'on se sent de nouveau libre de retourner vers l'objet, qui est plus simplement l'objet petit bourgeois que dénonçait Roland Barthes à la fin des années 50.
Avec la déesse.
Avec la déesse, par exemple. Mais, je dirais, un objet actant. Et là, je dirais, on se met derrière une autre influence, celle de la sociologie, l'innovation, des travaux de Bruno Latour, en l'occurrence, qui a essayé d'écarter le sujet pour réintroduire aussi l'objet dans l'analyse des faits sociaux. C'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais c'est aussi pour montrer la part du monde matériel dans nos échanges, qui soient, commerciaux, les plus basiques, que symboliques.
Pierre Lemonnier, vous êtes d'accord avec votre compère, Frédéric Julien ?
Oui, absolument. Donc c'est retour de l'objet, oui ou non. Non, comme l'a dit Frédéric, parce qu'il y a plusieurs centaines d'articles dans la revue dont on parle aujourd'hui, Technique et Culture, qui parlent d'objet. Non, parce que dans la filiation de Barthes Baudrillard et d'autres, les études de culture matérielle, Material Culture Studies, sont très développées dans le monde anglo-saxon, qui sont des études des objets une fois qu'ils sont fabriqués. Comment on les consomme ? Montre-moi comment tu consommes, je te dirai qui tu es en termes de rapport de genre, de statut, les riches et les pauvres, de manipulation d'autrui. Tout ça est très bien. De même, il y a des travaux tout à fait importants, même s'ils sont peu développés, autour de Jean-Pierre Varnier, qui sont sur la constitution du sujet, un individu membre d'une culture particulière, en quoi le fait qu'il, dès sa naissance, il est confronté à une culture matérielle particulière, il devient un sujet de cette société-là et pas d'une autre, notamment un sujet politique. L'immense difficulté, le pas à franchir, c'est évidemment, comme toujours, de passer de la construction du sujet individuel, qui est une structure psychique particulière, parce qu'il vit dans une culture matérielle particulière, avec un papa, une maman et tout ce que vous voudrez, et comment on part de ça à un collectif qui utilise une culture matérielle donnée. Ce qu'on apporte, on ne s'oppose pas à ces écoles, ce qu'on apporte, c'est de montrer, par exemple, comme le disait Frédéric à l'instant, des faits de signification, de communication non-verbale à travers des objets, ou quand on replace l'anthropologie des objets, à laquelle avait appelé Mauss il y a maintenant 80 ans, ou quelque chose comme ça, dans des thèmes classiques comme l'anthropologie du rituel.
La question est crue, fait-on une bonne ou une mauvaise anthropologie ou archéologie de l'objet ?
En anthropologie, elle n'a jamais été si bonne. Ce n'est pas parce que c'est nous qui la faisons. Elle n'a vraiment jamais été si bonne. Il est extraordinaire que le texte de Mauss, je vous rappelle Mauss, pourquoi on parle de Mauss ? Mauss, il y a 80 ans, a dit « les techniques les plus naturelles, les techniques du corps, faire pipi, accoucher, faire l'amour, marcher, nager, s'asseoir, sont des productions culturelles. » Donc, toutes les techniques sont des productions culturelles qui interviennent dans des relations sociales et qui sont susceptibles de varier d'un groupe à l'autre. Malgré ça, l'étude de la façon dont on fabrique, de ce que les gens pensent des matériaux, de comment sont constitués les objets, de comment on les utilise physiquement, ne s'était pas développée. Elle est en train de se développer, et miracle, elle se développe au moment où est republié le texte de Mauss sur les techniques, avec une préface de Nathan Schlanger de plus de 130 pages, qui s'appelle « Technique, technologie et civilisation ». Et ce n'est pas seulement le plaisir de citer un collègue, Mauss, dès ce texte « Les techniques du corps » en 1934, dit une phrase extraordinaire « Pour l'acteur, la magie, la religion et la technique, tout est mélangé. » On a passé des années à savoir si la technique avait un effet social ou avait un effet matériel. Maintenant, on se dit quel est, d'où, à quoi tient cette aptitude qu'ont les rapports aux objets, leur manipulation physique pour mélanger les pensées dans la tête des gens et pour leur faire partager un imaginaire et pour leur faire partager des manières de vivre ensemble. C'est le programme de Mauss qui a 80 ans et jamais on l'a traité aussi bien.
Comment classer les objets, utilitaires ou non, communs, précieux ? Vous vous penchez, vous aujourd'hui, sur peut-être les plus importants. L'objet irremplaçable. Alors l'objet est bien sûr irremplaçable, il est de prime abord forcément individuel. C'est le doudou irremplaçable, votre ours sexagénaire qui fait la une de ce numéro de Technique et Culture. Il y a aussi des objets irremplaçables dans les sociétés. Et bien sûr, ce sont eux qui nous intéressent. Est-ce que l'on pourrait peut-être prendre un exemple pour expliquer ce qu'est un objet irremplaçable au sein d'une société ? Le tambour, par exemple, pour être un bon exemple ?
Alors, ce n'est pas le tambour, mais c'est le tambour des gens de la Rye Coast en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tel que l'anthropologue anglais James Leach a pu les comprendre. Cet objet, il est fabriqué lors de l'initiation d'un jeune homme. Il est fabriqué par ses affins, c'est-à-dire en bon français par sa belle famille, ses beaux-frères et son beau-père. Et à partir du moment où cet objet est fabriqué, ce type ne sera plus jamais le même. Le tambour est sa voix. Alors, ce qui compte, c'est que pour une fois, vous savez, les anthropologues emploient plein de mots, et notamment, Frédéric a fait allusion à l'un d'entre eux tout à l'heure, la gentilité, l'agency, comme on dit en anglais. Les objets ont un effet dans le monde. Oui, mais comment ? Par où ça passe ? Quel rapport avec la matérialité ? Bon, là, on voit un autre dada des anthropologues, c'est-à-dire les objets sont des personnes. Pour qui ? Pour l'anthropologue ? Pour l'archéologue qui regarde ? Là, pour une fois, on a un objet dont il est démontré qu'il est une personne. Il parle. Quand il résonne dans la forêt en Nouvelle-Guinée, ce qu'il dit est pris au sérieux parce qu'il a été fabriqué comme il a été fabriqué, dans les circonstances où il a été fabriqué, par les gens par qui l'ont fabriqué. Rien ne sera plus comme avant, et pour le tambour qui n'existait pas, et pour le type dont il est la voix. C'est des exemples merveilleux qui montrent l'une des façons de fabriquer de l'unique, qui est de concentrer, de faire converger des relations vers un même objet.
Donc ce n'est pas l'objet en soi qui est irremplaçable, c'est son association avec une procédure rituelle. Et ce qu'il peut dégager, à savoir sa voix.
Dans le cas présent, oui. Dans le cas présent, oui. Il est unique. Il est le tambour de ce monsieur-là, de ce bonhomme-là. Il n'est surtout pas un tambour ordinaire sur lequel il suffirait de frapper pour appeler les enfants à venir à l'école ou à la messe ou je ne sais quoi, par exemple. Il est unique et il est unique parce que c'est une convergence de relations sociales. Sa fabrication a été un événement et la manière même dont il est fabriqué, avec différents segments qui font différents tambours qui sont pour le personnage en question et pour les gens qui étaient présents, qui lui donne une personnalité et une efficacité, puisque quand il parle, il dit rendez-vous après-demain pour manger un cochon, parce que les gens viennent après-demain, comme si le bonhomme lui-même avait parlé, avec la force qui lui permet de parler, qui est celle d'être un initié qui possède un tambour.
Pour nos auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Pierre Lemonnier et Frédéric Julien que vous êtes respectivement directeur de recherche au CNRS et maître de conférence à l'EHESS que vous avez dirigé. Les deux derniers numéros de la revue Technique et Culture, grande revue à la croisée de l'anthropologie et de l'archéologie. Et que ces deux numéros portent bien sûr sur l'objet. Autre exemple, un matériau absolument formidable entre ivoire et os, la nacre, Frédéric Julien.
Oui, je veux bien en parler. Il s'agit du travail de Sandra Révolon qui a coordonné avec Pierre ce numéro sur les objets irremplaçables. Et là, les objets en l'occurrence sont tout à fait présents et renvoient aux disparus, aux défunts. Il s'agit de la population Wa des îles Salomon qui a un rapport à quelque chose qui est décrit comme l'iridescence, autrement dit un reflet bleuté et moiré, vous savez, comme celui de l'huile qu'on peut voir sur l'eau, et qui là est dans des phénomènes, dans des objets naturels, les phénomènes naturels que sont les crépuscules, que sont la nacre du nautile ou d'autres coquillages, et qui sont parés, qui sont mis en objet et qui sont liés aux pirogues et à la peau des bonites notamment, et
qui évoquent, sorte de ton.
Bien sûr, la présence des morts constamment dans la société au quotidien. Et en ça, l'objet auquel elle a pensé, cette iridescence qui est décrite par les personnes est tout à fait étonnante et nous donne, je dirais, un objet singulier aussi pour l'anthropologie qui a travaillé sur ce reflet. Et ça montre aussi que l'anthropologie peut prendre des voies parfois détournées pour analyser des phénomènes très précis. Et je dirais, on ne travaille pas forcément sur la parenté, sur la famille, sur les objets canoniques de la discipline, mais aussi parfois sur des objets plus inattendus. Et là, l'iridescence est le cas, et on l'a mis en scène dans la revue.
Justement, Pierre Lemonnier, il fallait 34 objets pour sacrer un roi de France. Était-ce bien nécessaire? La réponse est probablement oui.
Il fallait 34 objets pour sacrer un roi de France. Ça nous fait d'abord penser à l'unité du champ qui est le nôtre. Bon, les archéologues ont peut-être un petit peu de mal à parler à ce moment-là, mais ils seront contents de savoir ce que nous dit l'historien. Pour faire un roi de France, sacrer un roi de France, il fallait des objets, et puis il fallait des actions, des déplacements. Dans l'article de Gilles Bartholin, qui se trouve dans ce numéro de Technique et Culture, on voit qu'il quitte sa chambre pour aller à l'église. Il franchit le seuil. Il s'arrête à la poste, à la porte. Il s'arrête à la poste. Non, pour l'instant, il s'arrête surtout à la porte. Et sont nécessaires des objets comme le siège, la sacro-sainte ampoule, la croix des cierges, un dais de soie, la couronne, l'épée, les éperons, le sceptre, etc. Le point essentiel, là, c'est d'une part que les historiens ont une chance fabuleuse, puisqu'ils ont les descriptions de ce qu'il faut dans un rituel, ici pour faire un roi, ailleurs pour faire un évêque, ou ailleurs encore pour faire la messe. Et dans l'article de Bartholin, on nous dit également tout ce qu'on doit faire si jamais quelque chose se passe mal pendant le sacrifice de l'Eucharistie, si tombe une mouche à un endroit, elle ne doit pas tomber, comment on fait pour resacraliser l'objet, pour continuer le rituel. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce rapprochement là qu'on voit dans ce numéro de Technique et Culture, c'est que quand on lit Bartholin sur la fabrication des rois, on pense immédiatement à la des objets, par exemple, dans les initiations ou dans un rituel de Mélanésie. Or là, on a une vision différente. Dans le temps, on cherchait quel est l'objet essentiel, celui dont les gens nous parlent, l'objet secret, l'objet sacré, l'objet auquel est lié le pouvoir politique et l'objet le plus facile à décrire pour un anthropologue. Mais quand vous parlez avec les gens, il y en a 40 des opérations. Il y a des patates douces, il y a des cannes à sucre, il y a des plantes qui décorent, il y a des barrières, il y a des actions, on tape les gens, on les fait marcher en rond, etc. Autrement dit, il y a une succession d'opérations et d'objets qui, jusqu'à un certain point, sont nécessaires au succès du rituel ou pas. Certains sont irremplaçables, certains ne le sont pas. Il y a des objets qu'on pense irremplaçables et que, bien entendu, on sait remplacer.
Concernant, bien sûr, les objets, un autre thème, le Japon, avec, bien sûr, le plus grand anthropologue et archéologue français, André Leroy-Gourhan, une sorte de collecteur d'objets pour les musées, Frédéric Julien, dans les années 1937.
Oui, tout à fait. Et c'est, je dirais, ce que nous avons essayé de faire dans le numéro 57 de la revue, qu'on a intitulé « Gestes et matières », André Leroy-Gourhan, découverte japonaise. C'est à propos de la première grande mission de terrain d'André Leroy-Gourhan, entre 37 et 39 au Japon, alors qu'il était le premier boursier français à aller travailler au Japon, à faire une ethnographie du Japon, qui était l'objet de sa thèse. Et il travaillait à ce moment-là pour ce qui allait devenir le Musée de l'Homme.
Et le Musée Guimet.
Et le Musée Guimet, et il rapportait dans sa quête toute une série d'objets afin de documenter et d'illustrer son ethnographie du Japon, ethnographie du monde traditionnel japonais et notamment de toutes les activités de artisanal du Japon.
Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est que Leroy-Gourhan ne se penche pas sur n'importe quel Japon. On a surtout souvenir de cette société très marginale à la culture et aux objets très particuliers, bien sûr, les Aïnous du nord du Japon.
Oui, André Leroy-Gourhan avait plusieurs fers au feu à ce moment-là. Un projet général de comparaison des sociétés de l'arc américain et sibérien et japonais. Et je dirais que les Aïnous ont entré dans ce cadre-là. Il est allé faire une description des objets, en a ramené, on les a illustrés dans l'ouvrage. C'était ça aussi un des objectifs, c'était de nous appuyer sur la formidable documentation qu'il a rapportée. Il photographiait avec sa femme, Arlette Leroy-Gourhan, quasiment au quotidien toutes les situations qu'il rencontrait. Ça me fait penser, je dirais, à l'usage qu'on fait aujourd'hui de la photo numérique. Mais lui, dans les années 30, avait des appareils photo et développait tous les jours. Donc au quotidien, il documentait et faisait des fiches tous les jours de tout ce qu'il décrivait. Donc le travail qu'on a l'impression de voir en plusieurs temps autrefois, puis aujourd'hui, tout est immédiat et on arrive à tout gérer en parallèle, Leroy-Gourhan le faisait et nous a ramené des milliers d'images qu'on a numérisées et présentées dans ce numéro, en regard aussi des objets qu'il a envoyés au musée et qu'il a gardés dans sa famille, et notamment de séries d'Emma, qui sont des ex-voto japonais, Shinto ou... Donc autrement dit traditionnel, qui représente des animaux, parce que là, il s'interrogeait sur le rapport aux techniques et aux animaux au Japon. Donc là, notre effort a été de présenter pour la première fois depuis les années 30 ces objets inédits en couleur, avec la documentation photographique d'origine et les commentaires et des textes inédits ou quasi inédits d'André Leroy-Gourhan.
Le Japon, c'est bien sûr aussi ces singes qui se baignent bien sûr dans les eaux chaudes, des macaques qui ont aussi des objets en quelques secondes, puisqu'il nous reste moins d'une minute trente au Salon Noir aujourd'hui.
Oui, on a fait participer dans ce numéro donc un certain nombre d'anthropologues japonais et qui ont décrit les situations ethnographiques au Japon et en Afrique, parce que l'anthropologie japonaise s'est amplement déplacée en Afrique. On a mis en parallèle Leroy-Gourhan et Imanishi, et puis d'autres ethnologues, et également un éthologue francophone qui travaille au Japon sur les objets, les cailloux manipulés par les macaques, qui correspondent depuis le début des années 50 à un projet d'analyse des origines de la culture et des traditions par les primatologues et les anthropologues japonais, à la différence de nous. Voilà, c'est par la comparaison et par la distance entre ces pratiques de recherche japonaise et francophone qu'on a bâti ce numéro, Gestes et matières.
Une dernière question, Frédéric Julien, Pierre Lemonnier. Un dernier mot sur les objets. Les uns sont dans les musées, les autres sont dans nos poubelles. N'est-ce pas là, dans les poubelles, qu'il faudrait mieux découvrir notre culture ?
Il y a une grande tradition de fouilles des poubelles en archéologie, mais Frédéric dira le mot ultime. Surtout, ce que nous rappellent les poubelles, c'est qu'il y a lieu aussi de s'intéresser aux objets parfaitement ordinaires de notre quotidien.
Alors oui, bien entendu, les poubelles, c'est le rejet, c'est le déni, c'est le rejet, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on ne dit pas.
Et c'est ce qui nous révèle.
C'est ces non-dits qui nous intéressent. Voilà.
Pierre Lemeunier, Frédéric Julien, merci. Je rappelle le titre de la revue Technique et Culture qui consacre 2 numéros à tous ces objets. La semaine prochaine, un autre objet, peut-être de fantasme, Alésia. Le Salon Noir était réalisé par Dany Journeau, à la technique Jacques Hubert, attaché d'émission Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site France Culture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.